Bonjour. Un, deux. Oui. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu pour cette belle journée. Merci pour l'occasion qu'on a au Québec et à plusieurs endroits dans le monde de souligner la fête des Pères. Nous nous rappelons en même temps, puisque nous sommes croyants, que tu es le Père par excellence, tu es le Père de toute l'humanité, le Père de toute la création, et tu es le modèle à suivre. Et merci d'avoir, par amour pour nous, révélé ta personne, révélé ton plan merveilleux dans les Écritures. Sois avec nous ce matin alors que nous étudions un autre passage de la Bible. Guide-nous par ton esprit, enseigne-nous. Au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Continuons notre étude du livre de Job. Si vous étiez là dans les leçons précédentes ou si vous avez déjà lu Job, vous vous souvenez que Job est un homme intègre, un homme selon le cœur de Dieu, juste, mais il a subi une suite de malheurs concentrés, puis il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, ses biens, ses serviteurs. Sa santé, parce qu'il dépérit sous un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. En plus, il perd l'appui de son épouse. Et là, en plus, il perd l'appui de ses amis qui sont venus pour le consoler, mais qui l'accusent. Donc, il perd même sa réputation. Il lui semble qu'il a finalement il a tout perdu, puis c'est irréversible. Le premier des amis qui est venu, si vous vous en souvenez, il voulait encourager Job en le faisant réfléchir sur la cause de son malheur. Il voulait lui faire prendre conscience que c'est assurément parce qu'il est tombé dans le péché, qu'il subit tous ces malheurs-là. Donc, la solution est simple, il faut qu'il se repente. Il a juste à se repentir, puis ça va aller mieux. Donc, son ami était sûr qu'elle allait l'encourager en faisant ça, mais ça a plutôt découragé Job. Il n'a pas eu de compassion pour la situation de son ami. Ça a même empiré la situation. Job était encore plus déprimé à la suite de l'intervention du premier ami. Le deuxième ami a été encore plus dur, même. Il est allé jusqu'à exhorter Job de cesser de prétendre être innocent. Parce qu'en faisant ça, il était en train d'accuser Dieu d'être injuste. Il dit, arrête de dire ça. Arrête de dire que tu es innocent parce que ce serait faire de Dieu quelqu'un d'injuste qui te punit injustement. Donc, tu dois cesser de prétendre que tu es juste. Mais ce n'est pas ce que Job avait dit. Job n'a jamais prétendu que Dieu était injuste. C'est juste qu'il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Et Job, de toute façon, reconnaît qu'il n'est pas parfait. Et il reconnaît qu'aux yeux de Dieu, aucun homme qui est parfaitement juste. Mais ce qu'il était en train de subir à ce moment-là, ce n'était pas à cause qu'il était tombé dans le péché. Il était fidèle à Dieu, un serviteur de l'Éternel, même comme aucun de semblable à lui sur la terre. C'est Dieu lui-même qui en a témoigné. Donc, il se demande si, puisque aucun homme n'est parfait sur la terre, pourquoi Dieu s'acharne sur son cas, pourquoi il le traite aussi sévèrement. C'est une question qu'il lance, une question légitime. Job a besoin d'être réconforté, mais il ne trouve pas l'appui de ses amis. Et même, on voit qu'à la fin de son discours, après la deuxième intervention, qu'il se voit comme dans une impasse. Il n'y a plus rien à faire. Il est comme captif, prisonnier, comme s'il avait été menotté dans la souffrance. C'est irréversible. La seule chose qui lui attend, c'est de mourir. Donc, il se demande pourquoi Dieu ne l'achève pas tout de suite. Et sa souffrance est irréversible. C'est ça comme captif, prisonnier. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être c'est le cas. Vous avez une forme de souffrance que vous savez qu'elle ne s'en ira pas. Il y a des souffrances qu'on peut connaître pendant notre vie qu'on sait que ça ne pourra pas revenir. Quelqu'un qui se fait amputer une jambe, par exemple, elle ne va pas repousser sa jambe. Si avec l'âge ou avec une maladie, on perd la vue, probablement qu'elle ne reviendra pas à la vue. Il y a des douleurs aussi profondes au niveau des relations. On peut avoir une relation brisée avec quelqu'un. On sait que ça ne pourra plus revenir. C'est arrivé à un point de non-retour. Et parfois, la relation est brisée parce qu'un de nos proches est décédé. Donc, on ne reverra plus cette personne-là de notre vivant sur la terre. C'est une souffrance qu'on sait qu'elle ne partira plus. On peut peut-être trouver un soulagement dans le deuil, mais ça ne va pas revenir comme avant. Ça ne pourra pas être corrigé. Parfois, on apprend même qu'on a une maladie qui est incurable et on sait qu'on va s'enfoncer jusqu'à ce que finalement on en décède. Donc, comment on peut réagir dans cette situation-là? On peut avoir particulièrement besoin de réconfort. Donc, voyons si le troisième ami va faire mieux. On va lire Job, chapitre 11 pour commencer. C'est Tsophar qui adresse la parole à Job. Donc, Job, chapitre 11. Tsophar de Naama prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse? Suffira-t-il d'être loquace pour avoir raison? Des bavardages feront-ils taire les gens? Te moques-tu sans que personne ne te confonde? Tu dis, « Mon savoir est sans reproche, et je suis pur à tes yeux. » Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres devant toi, et s'il t'annonçait les secrets de sa sagesse qui dépassent la raison, tu saurais alors que Dieu, pour toi, laisse dans l'oubli une partie de ta faute. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les hommes de rien. Il voit l'injustice sans avoir besoin d'y faire attention. Mais l'homme a l'intelligence d'une tête creuse. Je ne sais pas c'est comment c'est écrit dans votre version, mais ce n'est pas un compliment. Une tête vide. Bien sûr, c'est en comparaison à Dieu. L'être humain est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta main et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme dans sa crainte. Ferme et sans crainte. Car tu oublieras ta peine et tu t'en souviendras comme les eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi, tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Leur espérance, c'est d'expirer. Encore des paroles qui, à première vue, ça semble sensé. Il y a des vérités dans ce que Tsophar dit. Mais finalement, il ne fait pas mieux que ses amis pour consoler Job. Même, on dirait qu'il est pire. Versets 1 à 3, il est même insultant. Il parle à Job avec mépris. Il méprise la complainte de Job. Job vient de le passage d'avant, le chapitre 10, il vient de souhaiter encore une fois la mort, qu'il peut arrêter de souffrir. Il se plaint devant Dieu, il se lamente. Et lui, il le méprise. Il dit, « Toutes tes paroles, c'est juste comme du bavardage. Tu parles dans le vide, là. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu penses qu'à force de répéter ces paroles-là, que tout à coup, tu vas convaincre quelqu'un que ça va changer quoi que ce soit? » Pour lui, ce ne sont que des paroles vaines, futiles, inutiles. C'est triste, là, quelqu'un qui se lamente comme ça, puis pour l'encourager, on lui dit qu'il est en train de dire n'importe quoi, là. Mais on voit que Tsophar, ce n'est pas pour rien qu'il ait réagi comme ça. Il est lui-même énervé. Il est exaspéré de voir Job. Ça le confronte, là. Puis, il pense comprendre ce que Job est en train de dire, que Job, à ses yeux, aux yeux de Tsophar, le Job est en train de s'élever, il est orgueilleux, il pense qu'il est parfait. Là, ça le choque de voir l'attitude de Job, mais il se trompe, bien sûr. Mais il dit à Job, comme verset 4, « Tu dis, mon savoir est sans reproche, je suis pur à tes yeux. » Il dit, tu dois arrêter de dire que tu es parfait. Là. Arrête de dire que tu es pur. C'est vraiment un blasphème. Donc, il lui répond durement. Là. Mais ce n'est pas ce que Job a dit. Aucun endroit, Job a dit qu'il était pur sans aucune tache. Là. Donc, Tsophar exagère les paroles de Job ici. Et là, Tsophar, il prend la parole pour Dieu. Il se fait comme le porte-parole de Dieu. Ah, si Dieu pouvait parler ou s'il voulait te parler, voici ce qu'il te dirait. Waouh! Il dit, si Dieu pouvait parler de vive voix, il te dirait que c'est pas vrai qu'il est trop sévère envers toi. Au contraire, il mériterait de te punir encore plus. Il y a une partie de tes fautes qu'il ne punit pas, tellement il est bon, il les met en dessous du tapis. Là. Compte-toi chanceux de subir seulement ça comme malheur. Et ça, c'est encourageant. Donc, Tsophar, finalement, il prétend connaître la pensée de Dieu même ici. C'est qui blasphème, là? C'est Job ou c'est Tsophar? Et à partir du verset 7, et même jusqu'à la fin de ce passage-là, Tsophar veut confronter Job. C'est pas vrai que tu es dans une impasse. Arrête de dire qu'il n'y a plus de solution et que tout ce qui t'attend, c'est la mort. Arrête de dire ça. C'est pas vrai que tu es prisonnier. Premièrement, 7 à 12, il lui dit, tu es juste en train de t'endurcir. Tu veux te convaincre toi-même, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute que je subis ces malheurs-là. Donc, tu t'endurcis toi-même, tu es rebelle à Dieu, et plus tu t'endurcis, plus tu as une tête de mule, plus tu t'enfonces dans le péché, et plus tu t'enfonces dans le malheur. Donc, c'est... Dans le fond, il faut que tu reconnaisses là, que c'est de ta faute. Arrête de t'enfoncer. Si tu penses être dans l'impasse, là, c'est à cause de toi. Reconnais que tu es coupable. Sinon, tu fais juste prouver que tu ne connais pas bien Dieu. Le Dieu dont tu parles, ce n'est pas le vrai Dieu. Et à partir du verset 13, il disait la même chose à Job, c'est pas vrai que tu es dans une impasse. Tu dois simplement te repentir. Tu as juste à te repentir et tout va bien aller. Dieu va te rétablir. Mais tu dois le faire avant qu'il soit trop tard. Sinon, pas pour rien que là, il liste ce que Dieu fait aux méchants. Qu'il les juge, qu'il les extermine. Ce qu'il sous-entend, c'est ça qui va t'arriver. Là. Si tu ne te repens pas, Dieu va te juger, il va finir par t'exterminer, te condamner à mort. Dieu va disparaître. Donc, repens-toi avant qu'il soit trop tard. Mais on sait, quand on a lu Job depuis le début, que Tsophar se trompe à propos de Job. Il se trompe complètement. Et en plus, il prétend parler de la part de Dieu, il connaît la pensée de Dieu, il connaît la sagesse de Dieu. En fait, c'est Tsophar ici qui s'enfonce dans le péché d'orgueil. Il s'élève de manière prétentieuse. Il fait preuve d'un grand orgueil et il se croit supérieur à Job. C'est comme s'il s'est nommé le juge de Job. Il vient lui dire pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive, il lui dit quoi faire. Donc, il se croit supérieur à Job. Peut-être que vous avez déjà été traité comme ça. C'est déjà arrivé que quelqu'un vous juge des causes de votre souffrance et vous sentez qu'il se sent supérieur à vous. Peut-être même qu'il pense connaître votre situation mieux que vous et ne vous écoute pas. Vous lui avez donné les raisons pourquoi vous pensez que vous êtes en train de souffrir puis il ne vous croit pas. Il ne vous écoute pas. Ça fait mal, ça, de se faire traiter avec mépris. Mais pensons aux occasions où nous agissons comme ça, ou que nous avons agi comme ça. Ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. Quelqu'un nous parle, puis ça nous semble évident pourquoi qu'il souffre, mais on ne prend pas la peine de l'écouter. Là. On n'a pas une oreille qui est attentive, qui est pleine d'humilité. Mais l'amour chrétien, lorsqu'on comprend à quel point Dieu nous a aimés, qu'il est notre ancre, notre voile, qu'il est le Seigneur qui a obéi jusqu'à mourir pour nous, mais devrait nous pousser à aimer nos frères, avoir cette même compassion-là et de ne pas se croire supérieur. C'est vraiment tentant. On s'en rend pas compte, mais quand on évalue nos frères et sœurs dans leur situation, tout à coup, on s'élève au rang de juge pour juger de leur vie, de leurs décisions. Et c'est Jésus, par la bouche de Paul, qui dit dans Philippiens, « S'il y a quelque consolation en Christ, vous l'avez connu, la consolation de Christ. S'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. » C'est vraiment l'inverse. En tout cas, c'est carrément l'inverse de ce que Tsophar faisait ici. Le Seigneur nous demande de voir nos frères et sœurs comme supérieurs à nous-mêmes. Quand on fait ça réellement, là, sincèrement, on va cesser de les juger, de les évaluer, de ne pas prendre la peine de les écouter. On va avoir de la compassion pour eux, on va prier pour eux. Mais ici, Job, c'est le contraire. Il reçoit le mépris, le jugement. Et c'est à son tour d'être exaspéré. Il est choqué de voir l'attitude de ses trois amis. Il n'y en a aucun pour relever les autres. Même le dernier, il est pire. Donc, Job va répondre en se finalement, en se tournant vers Dieu. Donc, lisons au chapitre 12 et jusqu'à la première moitié du chapitre 13. Donc, Job 12, c'est la réponse à, d'abord à Tsophar, mais à ses deux autres amis aussi. Job répondit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Je ne vous suis pas inférieur. Et qui ne saurait pas des choses comme celles-ci? » De ce que Tsophar vient de dire à propos de Dieu. « Je suis quelqu'un qui est un objet de raillerie pour son ami. Quand il invoque Dieu pour qu'il lui réponde, le juste, l'homme intègre, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est l'opinion de ceux qui ont une vie tranquille. C'est un coup pour ceux dont le pied chancelle. Il y a de l'insouciance sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? Il tient dans ses mains l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les propos, comme le palais goûte la nourriture? Chez le vieillard se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. À lui le conseil et l'intelligence. S'il détruit, on ne peut rebâtir. S'il enferme un homme, on ne peut ouvrir. S'il retient les eaux, tout se dessèche. S'il les lâche, elles bouleversent la terre. En lui, la force et la raison. À lui, celui qui égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il libère du despotisme des rois et il leur met une ceinture autour des reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il renverse les autorités les plus stables. Il ôte la parole à ceux qui ont le plus d'assurance. Il enlève le discernement aux vieillards. Il verse le mépris sur les nobles. Il relâche le ceinturon des forts. Il met à découvert les profondeurs des ténèbres. Il amène à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il étend au loin les nations et il les ramène. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin et tâtonner dans les ténèbres sans lumière. Il les fait errer comme des gens ivres. Chapitre 13. Oui, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et j'ai compris. Ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis pas inférieur. Et moi, je veux parler au Tout-Puissant, je veux défendre ma cause devant Dieu. Car vous, vous accumulez la fausseté, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Ça aurait été pour vous la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense et soyez attentifs au plaidoyer de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu qu'il est injuste? Et pour lui, direz-vous ce qui est faux? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Trouvera-t-il du bien quand il vous sondera? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous fera des reproches si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des maximes de cendre. Vos protections ne sont que des protections d'argile. Taisez-vous et laissez-moi. C'est moi qui veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents et mettrais-je ma vie dans ma main? Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut m'être salutaire. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mon propos. Que mon explication parvienne à vos oreilles. Voici que je veux présenter mon droit. Je sais que c'est moi qui ai raison. On va lire la suite en troisième partie. Donc, on voit ici Job qui est choqué devant l'attitude de ses amis, particulièrement Tsophar, qui est pire que les deux premiers. Et il leur dit, chapitre 12, versets 1 à 5, il dit, dans le fond, ce qu'il leur dit, c'est « Vous jugez ma situation, mais reconnaissez que vous n'avez jamais souffert comme moi. Là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis. » Est-ce qu'il y en a un des trois qui avait déjà tout perdu, que ses enfants étaient tous morts, qui avait perdu tous ses biens, tombé gravement malade jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien? Il dit au verset 5, « C'est l'opinion de ceux qui ont une vie tranquille. » C'est facile là, de juger ceux qui souffrent. Quand on n'a pas souffert comme eux. Et ce qui est dommage, c'est que ses amis auraient pu tenter, en lui posant des questions, en l'écoutant, de se mettre dans ses souliers, de voir les choses de son point de vue, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ne se sont pas mis dans ses souliers, ils l'ont jugé. Donc, sans aucune empathie, et donc sans aucune sympathie. Et à partir du verset 6 au chapitre 12, il leur dit, « Vous êtes aveugle par votre façon de comprendre Dieu, par votre théologie. Votre théologie vous rend aveugle. Selon leur théologie, eux, ceux qui sont justes, ils vont avoir des bonheurs, des événements heureux. Ceux qui sont injustes, ils reçoivent des malheurs, des punitions de Dieu. C'est aussi simple que ça. Puisque Dieu est juste, il permet le bonheur pour ceux qui sont justes et le malheur pour ceux qui sont injustes. Mais il dit, votre façon de penser mécanique vous rend aveugle. Et vous ne remarquez pas que c'est souvent le contraire. Et ce qu'il dit, c'est que les vieillards d'expérience qui ont une longue vie, là, ils pourront vous le dire. Interrogez même les bêtes, ils vont vous le dire. Il y a souvent de la souffrance pour les justes. Ça arrive. Il y a parfois des méchants, des voleurs, qui vivent dans l'opulence, puis ils s'en vont tranquilles, on dirait, jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une règle automatique, là, que ceux qui sont méchants vont connaître le malheur. Bien, nous, on sait qu'à la fin, ils vont connaître le malheur, mais pendant une longue partie de leur vie, ils peuvent vivre tranquille, puis les justes, pourtant, connaissent la souffrance. Ce que vous dit votre règle automatique, là, c'est pas vrai. Pourtant, même si le juste souffre, Dieu est toujours juste. Dieu est toujours même souverain. Et là, Job rappelle ce que les deux autres ont rappelé aussi, que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout. Il contrôle même les nations, les gouvernements, même ceux qu'on n'aime pas ou ceux qui nous scandalisent, c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus. Il va donner de la croissance à une nation qui va devenir une des principales au monde et tout à coup, il peut causer sa chute et une autre prend le dessus. C'est Dieu qui a le contrôle des nations, des gouvernements et de chaque individu. Donc, Dieu demeure souverain et pourtant, ce que vous dites qui devrait se passer ne se passe pas. Quand le malheur frappe le juste, ce n'est pas parce que Dieu laisse aller les choses hors de son contrôle. Et c'est certainement pas parce qu'il veut punir l'innocent. Donc, c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Et il dit au verset, chapitre 13, il dit, « Je ne suis pas moins intelligent que vous, là. J'analyse les choses et je n'arrive pas aux mêmes conclusions que vous. Vous croyez être les porte-paroles de Dieu, mais vous parlez avec ignorance. Des choses qui vous dépassent, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et vos principes sont des principes de néant. Vous êtes des médecins de néant. Vos maximes, vos conseils, vos proverbes, là, c'est des proverbes de cendre. C'est comme de la poussière. Ça ne vaut rien. » Et là, il est allé jusqu'à leur dire, « Si vous n'aviez pas parlé, vous auriez pu passer pour des sages. L'insensé, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Mais là, vous avez ouvert la bouche, vous avez manifesté votre stupidité. Et même... vous êtes répréhensible et Dieu va vous reprendre. » Et au verset 13, chapitre 13, 13 à 19, ce qu'il leur dit, c'est finalement, c'est « Maintenant, je vous demande de vous taire. » Bon, la suite du récit va montrer qu'ils ne l'ont pas écouté, mais il dit « Arrêtez là, de me parler, ça ne me fait pas du bien. » De toute façon, il ne leur a pas demandé leur avis. Il s'attendait à de la compassion. Il ne voulait pas avoir leur analyse de la situation puis leurs conseils. Peut-être que vous connaissez des gens qui... Ça vous est déjà arrivé, aussitôt que vous parlez d'une difficulté que vous vivez, ils s'empressent tout de suite de vous dire quoi faire. Là, ils vont vous expliquer en long et en large pourquoi vous vivez telle ou telle chose, puis tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ils ne vous posent même pas de questions pour en connaître davantage. Là, tu dis, oh, j'aurais pas dû en parler. Mais au lieu d'aider là, ce genre de personnes-là, ça va plutôt causer de l'irritation. C'est agaçant. C'est épuisant. Et j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Parce que c'est désagréable. Pouvoir donner un conseil rapidement dans une situation sans avoir besoin d'étudier plus la situation, ce n'est pas une preuve d'intelligence. C'est plutôt une preuve de stupidité. L'intelligent va prendre le temps d'étudier pour bien comprendre avant de donner un conseil, de juger de ce qui est bon. Pas de tout rejeter d'un coup et de dire maintenant il faut faire ça à la place. Donc, prendre le temps d'écouter, de compatir, se mettre dans les souliers de l'autre. Job ici, par contre, il est un bon exemple. Il dénonce le mal de ses amis. Il leur dit, la manière dont vous me traitez, ce n'est pas bon, mais sans aucune malice, sans méchanceté, même toujours en gardant une certaine humilité. Et ce qu'il dit, c'est maintenant, je me préoccupe, taisez-vous, je me préoccupe. Ma préoccupation, c'est avec Dieu. Il se tourne vers Dieu. Il se préoccupe prioritairement de sa relation avec Dieu. C'est à lui seul qu'il veut rendre des comptes. Ça peut arriver même pour nous aussi, dans certains cas, qu'on doit faire taire des proches ou des amis qui veulent nous aider, mais qui ne nous font que du tort. Il faut les bloquer sur nos téléphones, il faut les mettre sur la liste du spam dans nos boîtes de courriel. Mais parfois, on se fait du mal à accepter, à être tolérant. Mais Proverbe 14:7 dit « Tiens-toi à distance de l'homme insensé, puisque tu n'as pas trouvé la connaissance sur ses lèvres. » Tiens-toi à distance. C'est bon de protéger sa santé, même mentale. Mais faisons en sorte de ne pas être comme ça. Non? Parfois, ce sont nos propres pensées qu'il faut faire taire. Si on a des mauvaises pensées, parfois elles surgissent quand on a la tête sur l'oreiller dans le lit. Là. On n'arrive pas à dormir. Et nos pensées nous accusent. Si tu en faisais plus, si tu faisais plus d'efforts, tu pourrais sortir du malheur. Ou t'es bon à rien, pourquoi tu as encore fait ça? Pourquoi tu t'es encore mis dans le trouble? Hein? Mais le trouble peut-être n'a rien à voir avec une décision qu'on a prise. Là. On n'est pas responsable de ça, mais on cherche à s'en sortir, puis on s'accuse soi-même. Ces mauvaises pensées peuvent être alimentées par Satan, bien entendu. Mais on n'a même pas besoin de Satan pour nous accuser nous-mêmes, mais ça se peut que Satan vienne amplifier tout ça. Mais quelle est la solution, finalement? Si la voix est toujours là, hein? Faire taire, mais il faut qu'il y ait une autre voix, là, sinon elle va revenir. C'est de se tourner vers Dieu, c'est d'écouter Dieu, lui parler à lui, lui vider notre cœur, puis exposer la situation. S'il y en a un qui peut nous comprendre, c'est bien lui. Et c'est ce que Job fait, il se tourne vers Dieu. Et c'est seulement vers Dieu, même si Job ne voit pas la solution, pour lui, c'est vraiment... La seule chose qui l'attend pour lui, c'est la mort. Mais il se tourne vers Dieu parce que c'est le seul endroit, le seul lieu où il peut avoir l'espoir, la seule personne qui peut lui donner l'espoir. Donc, lisons la fin du chapitre 13, verset 20 et chapitre 14. Ah, j'avais manqué le verset 19. Bon, on va partir verset 19. Hein. Job 13, verset 19. « Qui voudrait me faire un procès? Dès maintenant, je me tairai et j'expirerai. Seulement, concède-moi deux choses. » Il parle à Dieu. Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Éloigne ta main de dessus moi, que ta terreur ne m'épouvante plus. Puis appelle, et je prendrai la parole, ou bien je parlerai et tu me répondras. Quel est le nombre de mes fautes, de mes péchés? Fais-moi connaître mon crime, mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu? Et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu me faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Car tu écris contre moi des paroles amères. Tu me rends responsable des fautes de ma jeunesse. Tu veux mettre mes pieds dans les entraves et surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. Et mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte et il est saturé d'agitation. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il prend la fuite comme une ombre et ne s'arrête pas. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si par toi ces jours sont fixés, le nombre de ces mois, tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Détourne de lui les regards et qu'il fasse une pause pour qu'il ait au moins le plaisir du salarié à la fin de sa journée. Pour un arbre, il y a de l'espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Et si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à l'approche de l'eau, et il produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, et il perd sa force. L'être humain expire. Où il est alors? Les eaux de la mer peuvent se retirer, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas avant que les cieux disparaissent. Il ne sort pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir au secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service jusqu'à ce que vienne ma relève. Tu appellerais alors et moi je répondrais. Tu te languirais après l'œuvre de tes mains. Mais maintenant, tu comptes mes pas. N'observes-tu pas mon péché? Mon crime est scellé dans un sac et tu ravives ma faute. Mais la montagne tombe et se disloque, le rocher se déplace, les eaux usent les pierres et la terre est emportée par leur courant. Ainsi, tu fais périr l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Ses fils sont-ils honorés? Il n'en sait rien. Sont-ils dans l'abaissement? Il ne s'en aperçoit pas. C'est dans sa chair à lui qu'il souffre. C'est son âme à lui qui est en deuil. Donc, ce que Job dit à Dieu ici, au chapitre 13, à partir du verset 20, c'est « Accorde-moi une trêve, je t'en prie. » Il ne prétend pas que Dieu est injuste, mais il dit « Ne sois pas si sévère. Accorde-moi une trêve que je puisse avoir une audience auprès de toi. » C'est comme si le bourreau le frappe, il dit, éloigne le bureau, là, que je puisse m'approcher de toi et te parler, plaider ma cause. Verset 23, il dit, présentement, je me sens comme puni, captif, parce que j'aurais commis des péchés, et des péchés que j'ignore même. Et moi, la grâce au moins de me les révéler, de savoir pourquoi je suis traité aussi sévèrement. Au chapitre 14, il exprime la situation de tous les hommes. Il dit « Je traîne le fardeau de ma nature pécheresse, comme tous les êtres humains. Je vis dans un monde qui est déchu, qui est corrompu, qui est sous la condamnation de Dieu. Un monde qui est corrompu et où tous finissent par mourir. » À partir du verset 13, il dit « Ce n'est pas une injustice. » Parce que toute l'humanité a péché. Tous les hommes, toutes les femmes, la race humaine a péché, se trouve coupable devant Dieu, et elle subit la malédiction, la condamnation d'une vie courte, comme une fleur qui pousse comme un pissenlit et qui fane. Après une semaine, elle n'est plus là. C'est déjà une malédiction de la part de Dieu sur l'humanité que notre vie soit si courte, et en plus, elle est difficile. Nous devons nous agiter. Il y a beaucoup de troubles qui peuvent survenir n'importe quand. Et elles se terminent par la mort. Même quand on s'en va peut-être en paix, elles se terminent par quelque chose de grave, là, que notre dernier souffle sort et c'est fini. Tous les êtres humains s'en vont là, qu'on soit milliardaire ou qu'on soit pauvre, on finit tous par pousser notre dernier souffle. C'est une malédiction qui pèse sur l'humanité. Job le reconnaît. Mais ici, il soulève une question très importante dans sa réflexion qui est très profonde. Une question qui est existentielle, c'est cette vie courte là, que tous les hommes, dont tous les hommes ont reçu le lot. D'avoir une vie qui est éphémère, ça passe comme dans un clin d'œil. Et une vie qui va comporter la souffrance, son lot de souffrance, qu'on le veuille ou non, c'est inévitable et qui se termine même par la mort. Est-ce que c'est tout ce qui existe? Il n'y a rien d'autre? Selon Job, pour celui qui souffre d'une manière qui semble même irréversible, qui est captif, il y a une seule chose qui pourrait donner de l'espoir. Il dit au verset 14, « si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, si l'homme pouvait revivre, si l'homme pouvait ressusciter, bien là, il dit, je serais dans cette attente-là. Et je vivrais dans l'attente qu'un jour je ressusciterai. Il a vraiment compris. Nous, on ne s'est jamais trouvé dans la situation de Job où on n'avait jamais reçu la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Mais il faut se mettre dans les souliers de Job qui, c'est avant Jésus-Christ, là. C'est à l'époque où Dieu avait annoncé qu'un jour, il fournirait une solution, mais Job ne la connaissait pas, cette solution-là. Mais il a été assez clairvoyant pour voir que la seule chose qui pourrait réellement donner de l'espoir face à une vie de vanité courte, de souffrance qui s'éteint comme ça, la seule chose qui pourrait véritablement me donner de l'espoir, c'est de savoir qu'un jour, on pourrait revivre. Et il dit, j'attendrai ce jour-là pour le reste de ma vie. Au verset 13, il dit, le séjour des morts même ne serait qu'un état temporaire jusqu'à ce que Dieu se souvienne de moi et me rappelle. Verset 15, il dit, un jour Dieu me rappellerait et même il désirait, il se languirait d'avoir sa créature auprès de lui. C'est ça que Job espère. Hey, si ça, ça pouvait arriver. C'est son souhait. Mais le constat de Job sur le fait que la vie est si courte et vaine, finalement. Mais c'est une évidence pour toute personne qui réfléchit honnêtement. Les plaisirs de la vie, là, la Coupe du monde de la FIFA, ça peut nous faire oublier pour un temps. Mais une fois que c'est terminé, là, puis on est face à son compte de banque, à son carnet de santé du médecin, ou à chaque fois qu'il y a un anniversaire, à chaque fois que la réalité de la vie nous rattrape, puis on s'arrête pour y réfléchir, là, on doit venir, si on est honnête, à ce constat-là que la vie, finalement, elle est courte, elle est vaine. S'il y a seulement ça, c'est absurde. Pourquoi est-ce qu'on continue la vie? C'est absurde. Et il y a beaucoup de philosophes qui se sont creusés la tête là-dessus. Cette question de Job, que Job a soulevée, ça a été le sujet de beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, mais ça n'a jamais trouvé sa résolution. C'est resté une tension. Dieu nous aime, mais finalement, on finit tous par mourir. Dieu veut nous faire grâce, mais on finit tous par subir la condamnation avec tous les autres êtres humains. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Le Sauveur du monde. Dieu a vu la condition malheureuse des hommes. Et même, il l'avait vu d'avance. Il a fourni un plan. Il a vu notre nature corrompue, pécheresse, qui produit la mort. Et il est intervenu dans son amour. Il est venu à nous en son Fils Jésus pour nous délivrer de cette prison-là, pour libérer les captifs, comme c'est exprimé dans Ésaïe, la captivité de la souffrance. Donc, Dieu est venu en son Fils, et son Fils Jésus-Christ a été le seul être humain parfait, le seul qui pouvait clamer être pur, juste, absolument juste. Aucun péché caché, aucune faute cachée, même pas en pensée ou en intention. Absolument pur, mais pourtant il est mort, puni. Pourquoi? Pour porter sur lui le fardeau que tout être humain traîne. Jésus a accepté de le porter sur ses épaules, le fardeau du péché. Et il a été cloué à la croix. Et en a payé le prix pour que finalement, tous ceux qui mettent leur confiance dans le sacrifice de Jésus, en Jésus, qui croient en lui, le fardeau leur soit enlevé de leurs épaules, qu'ils soient pardonnés. Et même Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'a pas simplement enlevé le fardeau pour payer le prix. Il est revenu à la vie. Il a revécu. Donc, il a accompli même le souhait de Job. Plus que ça, il a ouvert la voie pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui un jour revivent, ressuscitent. C'est notre espérance. Tous ceux qui croient en Jésus croient qu'un jour, la vie n'est pas vaine parce que c'est une période temporaire qui nous prépare à la nouvelle vie, la vie éternelle. Il débutera, bien, elle débute déjà maintenant en espérance, mais un jour, elle se concrétisera. Nous allons ressusciter comme Jésus pour être ramenés auprès de Dieu. Vraiment, Dieu fait tout ça par amour pour sa créature, pour nous ramener auprès de lui-même. Il se languit de ça, comme dit Job. Il a hâte là, qu'on soit réunis à lui, que son peuple y soit réuni pour vivre avec lui. Donc, ce que Job a souhaité, nous pouvons l'espérer maintenant, mais avec assurance. Pas simplement comme un souhait, mais comme quelque chose qui va s'accomplir assurément. C'est plus qu'un espoir, même. Le mot technique dans notre foi chrétienne, c'est l'espérance. L'espérance, c'est qu'on est sûr que ça va arriver. C'est une assurance. Et ça, ça change tout comment on voit la vie. Comment même on voit notre souffrance. On sait même que la souffrance nous aide à mieux connaître Dieu et que même ça concourt à notre bien. Ce n'est pas une vanité. On n'est plus captif, on est libéré. Et on peut vivre le reste de notre vie sans se sentir prisonnier de la souffrance. Bon, même si Job ne connaissait pas tout ça encore, son exemple d'attitude est un bon modèle pour nous. D'abord, il a été mal jugé par ses proches, lui a exprimé qu'il était choqué. Il leur a même dit, mais sans vouloir se venger, il n'est pas tombé à juger leur vie. Vous n'êtes pas mieux, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Il s'est tourné vers Dieu. Donc, parfois, il faut faire comme lui, cesser d'écouter ce qui nous accable pour se tourner vers Dieu, pour lui parler. Et il a exprimé à Dieu son impuissance. Il est captif. Si tout dépendait de lui, il ne pourrait pas s'en sortir. Il le dit à Dieu et il compte sur lui. Ah, si un jour l'homme pouvait revivre. Mais Dieu l'a entendu. Et dans un sens, il accomplit son souhait pour toute l'humanité. La solution qui a été proposée par Tsophar n'est pas la bonne. Et ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Quand on est captif d'une souffrance, même une souffrance qui est irréversible, ça se peut parfois à cause de la maladie, à cause d'un accident ou à cause d'une erreur qu'on a commise, même une faute professionnelle ou autre, qu'on subisse une conséquence qui ne pourra jamais se cicatriser. On va devoir vivre avec ça pour le restant de notre vie. C'est possible. Mais c'est faux de penser, comme Tsophar, que si on fait des efforts, si on fait quelque chose, là, qu'on va pouvoir s'en sortir. Il y a beaucoup de religions qui proposent ça, parce qu'on a un vide dans le cœur, puis les religions veulent le combler en nous disant, faites ces règles-là, une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire, des interdits, là, et vous allez vous améliorer, vous allez pouvoir vous procurer le bonheur dont vous espérez avoir. Même certains vous proposent même une espérance après la mort, de rejoindre les anges ou de rejoindre la force cosmique ou de réincarner. Donc, des espérances qu'après la mort, mais tout ça, si ça ne vient pas de Dieu, si ça vient de nos propres efforts, c'est vain. Ça ne produit que, finalement, la mort. Donc, on essaie de s'y échapper, mais ça mène à la mort. Même dans certains cas, ça l'accélère. La seule vraie solution, c'est celle qui est donnée par Dieu lui-même. C'est seulement le Créateur qui peut venir secourir sa créature. La créature elle-même, elle ne peut pas s'en sortir. Et la solution de Dieu, c'est qu'il procure la vie éternelle, il fait revivre. Il aurait pu décider qu'il transforme la terre présente, qu'il nous transforme tout de suite, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il a laissé le temps que les hommes lui fassent confiance et puissent apprécier sa grâce qu'il nous fait. Et un jour, il va refaire une nouvelle terre où la justice va régner. Il n'y aura plus jamais de souffrance. On va être complètement libérés. Et il nous demande de le croire sur parole et de vivre en espérance là. De ne pas chercher un trésor sur cette terre, mais de chercher un trésor dans le royaume des cieux, sur la nouvelle terre. Et ça, c'est seulement possible si on accepte que ça nous est donné comme une pure grâce. On ne le mérite pas. On n'en est même pas digne. Dieu nous a fait grâce dans sa compassion, sa miséricorde. Si on accepte ça humblement, c'est là qu'on le reçoit. C'est ça la clé, par la foi en Jésus. Donc, on croit que c'est par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Il n'y a pas d'autre façon, c'est Dieu qui l'a ordonné, comme ça. Quand on saisit cette vérité-là, le désespoir se change en espoir. Les souffrances sur la terre, aussi graves soient-elles, on est conscient que c'est seulement temporaire. Et elles sont même, sans minimiser la souffrance que nos frères et sœurs peuvent subir, mais quand on les compare à ce qui nous attend dans le royaume des cieux, c'est petit, en réalité. Et même si on dit, je souffre pendant 10 ans, c'est quoi 10 ans comparé à l'éternité? Ça passe vite, puis c'est petit. C'est ce que Paul dit dans Romains 8. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On peut se conditionner à penser comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de passer à travers les épreuves. Cet espoir-là, c'est suffisant pour nous garder même courageux face à la mort, courageux face aux épreuves qui surviennent. 2 Corinthiens 4, je vais terminer là-dessus. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen.